Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Bonjour et bienvenue à tous. Nous souhaitons dire un grand merci à nos abonnés VIP sur lecoinducrime.com. Audrey Vasseur, Eric Bauer, Virginie, Jean-Héry, Marine Bonnemère et Sophia. C'est grâce à eux que nous pouvons vous proposer des épisodes inédits. N'oubliez pas que vous pouvez aussi simplement et rapidement débloquer des dizaines d'épisodes inédits en vous abonnant directement sur Apple Podcasts. C'est important pour nous car, comme vous le savez, Le Coin du Crime survit à 100% grâce à nos auditeurs. On vous remercie donc infiniment et on commence. Nous sommes à Nice, dans la capitale azuréenne en France. Les chemins de deux hommes influents, Dominique Cosme et Pascal Vito, se croisent. Dès leur première rencontre, Dominique, un médecin biologiste, et Pascal, un homme d'affaires notable de la haute société, s'entendent très vite et leurs violons s'accordent parfaitement. Ils fondent alors un laboratoire d'analyse médicale et prospèrent ensemble. En plus des affaires, Vito et Cosme ont un lien très fort. Ils font partie de la fraternité maçonnique réputée pour être très unie. Le 28 février 1996, un malheur frappe. Pascal est retrouvé mort dans une annexe privée du laboratoire qui fait usage de garçonnière. C'est son ex-femme, Evelyne Yaramante, qui fait cette découverte macabre. Que lui est-il arrivé ? Les circonstances mystérieuses de son décès bouleversent tout son entourage. Sa mort subite laisse planer le doute pendant de longues années. Venez donc découvrir les divers rebondissements de cette affaire énigmatique, où les fils se mêlent et les zones d'ombre se multiplient. Pascal Louis Vito est un homme mondain qui brille en société. Très connu à Nice, il fréquente les personnalités les plus haut placées de la ville et de la région. Au début de sa carrière, dans les années 80, il reprend l'agence de voyage de son père et construit son propre réseau de connaissances. Par le biais de cette agence, il organise des séjours pour la mairie et se rapproche des figures de politique locale les plus importantes. En juin 1983, il rencontre une belle jeune femme blonde du nom d'Evelyne Yaramante chez des amis en commun. C'est le coup de foudre. Evelyne est directrice d'une clinique et fait aussi partie de la haute société. C'est une femme d'affaires brillante et déterminée, avec un esprit ouvert et une grande ambition. Quelques mois plus tard, à la mi-novembre de la même année, les deux tourtereaux célèbrent leur heureuse union en organisant une fête de mariage majestueuse à Las Vegas. Le député Jacques Médecin, le maire de Nice, un ami proche de Pascal Vito, croit en son talent de politicien et l'envoie à Draguignan pour s'initier au monde de la politique. Cependant, l'expérience vire au désastre et Vito est accusé d'avoir effectué des malversations financières. Non seulement il est arrêté et incarcéré pendant 54 jours, mais il est aussi tenu de payer une dette d'environ 1 million de francs au fisc. De retour à Nice, son épouse lui présente Dominique Cosme, un scientifique ingénieux originaire de la région parisienne. C'est un médecin biologiste qui s'est récemment installé sur la Côte d'Azur, après 6 ans d'exercice à l'assistance publique des hôpitaux de Paris. Il travaille actuellement dans un laboratoire à Cagnes-sur-Mer. Pour Pascal Vito, c'est une aubaine. C'est cet homme discret et docile qu'il cherchait pour son nouvel investissement. En fait, l'idée d'investir dans le domaine de la biologie lui est venue au moment où il a rencontré Cosme. Il crée alors un laboratoire d'analyse médicale sans apparaître officiellement sur les papiers comme propriétaire, de crainte que son affaire soit saisie par le fisc à cause des dettes cumulées. L'institut est alors mis en place dans la galerie du Mont-Neuf. Pour ce qui est du capital, Vito exploite ses relations, démarche les banques et sa femme Evelyne apporte en caution sa villa située sur les hauteurs de Nice. En échange, cette dernière obtient un quart des parts de la société. Les statuts de la société stipulent que les trois quarts appartiennent à un médecin en biologie. De ce fait, le docteur Cosme en détient 75% sans avoir engagé d'argent et en devient le propriétaire officiel. Toutefois, tous les employés savent parfaitement que le vrai patron est Pascal. Pour faire marcher le labo, Vito invite des médecins connus dans la galerie et met en place un centre médical complet. Avec sa maîtrise de l'art de la communication, ses talents de charmeur et son sens du relationnel très développé, Pascal réussit à convaincre 35 praticiens de rejoindre son affaire en quelques mois. La galerie du Mont-Neuf ouvre alors ses portes en 1986. Dans un esprit de camaraderie, les docteurs se serrent les coudes et s'entraident. Le projet est de plus en plus florissant et les profits montent en flèche. C'est la grande époque pour Evelyne et Pascal. Seul, Dominique reste en retrait et ne goûte pas à ses glorieux exploits. Il ne sort pas de l'ombre de son éminent partenaire qui règne en maître. Cosme est toujours en admiration devant son associé et vante constamment ses mérites. En revanche, Vito ne rate aucune occasion pour se jouer de lui. Il n'hésite jamais à le rabaisser devant les employés et en abuse parfois. Quand bien même il le réprimande, le docteur courbe l'échine et laisse passer l'orage. Au travail, on le surnomme le toutou. À force d'être soumis en permanence, il est devenu la risée de ses collègues et mérite le sobriquet qu'on lui a donné. En 1994, après 11 ans de vie commune, le couple de Pascal et Evelyne se brise. Ce n'est plus un secret pour leurs collaborateurs. Leurs disputes s'entendent dans toute la galerie. Tout le personnel médical assiste à leur scène de ménage dans les couloirs du Mont-Neuf. Les discussions deviennent houleuses, les mots deviennent blessants et les reproches se transforment progressivement en insultes. L'agressivité prend le dessus sur l'amour, la patience se dissipe et c'est la fin d'un mariage qui avait l'air parfait. Pour Vito, la chute est rude. Il quitte la villa de sa femme et élit domicile dans l'appartement de fonction du laboratoire. Il y reste seul pendant quelques mois jusqu'à ce que Cosme le rejoigne à son tour car, ayant lui-même des problèmes conjugaux, le biologiste rompt avec sa femme et atterrit dans la chambre de garde, juste à côté de son associé. Sur le plan professionnel, les relations de l'homme d'affaires avec les médecins du centre ne sont pas au beau fixe. Certains contestent ouvertement son autorité qu'ils jugent abusive. Petit à petit, des clans se forment et des tensions froides s'installent. Pascal Vito se sent délaissé et en est profondément affecté. L'homme mondain, aux multiples connexions, perd son assurance. Il plonge aussi dans une crise de confiance et sombre dans le désespoir. Abîmé, il a cette sensation désagréable de perdre le sens de son existence. Il déclare souvent à ses collègues « Il faut que j'aille rejoindre mon père ». Pour combler ce vide intérieur, Pascal Vito se lance dans une fuite en avant. Étant un grand amateur de luxe, il se trouve un passe-temps très coûteux. Il ne se prive de rien, voitures, montres de marque, voyages, et pour ses maîtresses, il leur offre les cadeaux les plus somptueux. D'ailleurs, depuis son divorce, celui-ci multiplie les conquêtes. L'homme d'affaires dilapide l'argent sans compter, et c'est dans la caisse du laboratoire qu'il puise sa fortune en liquide. Il se sert avec largesse, encore et encore, jusqu'à endetter la société. Ses dépenses somptuaires mettent tout le projet en péril. Ses deux associés ne comprennent pas pourquoi Pascal cherche à faire couler le centre médical, mais ils ne peuvent rien y faire. Dans la tête de l'investisseur niçois, les idées se bousculent. L'établissement qu'il s'est donné beaucoup de mal à mettre sur pied lui tient à cœur, mais l'ambiance qui y règne le tue à petit feu. Il ne supporte plus de vivre dans ce cadre tendu avec des collaborateurs factieux aux conspirations exaspérantes. C'est décidé, il va mettre le laboratoire en vente. Or, officiellement, le projet n'est pas à son nom. Il a besoin de l'accord de Yaramant et de Cosme s'il veut le céder. Mais Vito a su se prémunir au cas où les deux associés refuseraient de se plier à ses envies. Lors de la création de la société, il leur a fait signer des reconnaissances de dettes privées qui lui rendent ce qui lui revient de droit. Ces documents semblent être le meilleur élément de pression qui lui rendrait ses parts de vrai propriétaire. D'ailleurs, il a commencé à réfléchir à un nouveau projet, moins contraignant. Il compte investir dans la fabrication de trains miniatures. Il a même trouvé un excellent concepteur qui travaille dans un petit atelier dans la même galerie. Petit à petit, le visionnaire se remet sur les rails. Le 28 février 1996, à 10h, un cri aigu retentit dans le labo. Paniquée, une femme se précipite dans le couloir et crie « Au secours !» Illico, le médecin de garde, accourt et découvre Pascal Vito, le corps froid. Il est mort depuis des heures. Alerté, la police se rend immédiatement sur place et trouve l'homme de 48 ans étendu sur un lit qui n'a pas été défait. Allongé sur le dos, il est vêtu comme pour sortir. Il porte un pantalon, une chemise et a une écharpe autour du cou. Dans la chambre, tout est en place. Il n'y a aucune trace de lutte. S'est-il suicidé ? On appelle alors un médecin légiste qui vient examiner le corps et on interroge la personne qui a découvert l'homme d'affaires. Ce n'est autre qu'Evelyne Yeramante, son ex-épouse. Elle déclare au policier « Mon ex-mari était dépressif. Il y a 3 jours, il m'a confié qu'il voulait se suicider. Ce n'est pas la première fois qu'il le dit. Il exprimait souvent ses intentions suicidaires à tout le monde. » Entre 2 sanglots, elle leur remet une note qu'elle dit avoir trouvée sur la table de chevet, à côté du lit de Pascal. C'est un petit papier sur lequel Vito a griffonné quelques noms de substances chimiques, telles que le Valium, le Théralène et le barbiturique rapide. Ces 3 médicaments sont couramment utilisés lors des suicides. Selon ces premiers éléments, Pascal Vito a manifestement mis fin à ses jours. Le corps est transporté dans une des chambres mortuaires du laboratoire médico-légal. Tout d'abord, le légiste Alain Seba procède à une analyse externe. Il déshabille le cadavre et l'examine, mais il ne constate ni lésion traumatique, ni hématome. Aucune trace suspecte n'apparaît sur le cadavre. Dans son rapport, le docteur Seba détermine l'heure du décès à 23h, le soir du 27 février, et conclut provisoirement à une mort par absorption massive de tranquillisants. Toutefois, les enquêteurs n'ont trouvé aucune boîte de médicaments dans l'appartement de fonction. Ainsi, on demande au médecin légiste de faire un prélèvement sanguin post-mortem afin d'effectuer des analyses et vérifier l'existence d'anxiolytiques. 2 tubes de sang sont alors envoyés au toxicologue, le docteur Jacomet. C'est à lui de déterminer si le cocktail médicamenteux est responsable de la mort de l'homme d'affaires. Aussitôt avertie, Alexa Vito, 17 ans, la fille de Pascal qui était à l'étranger, prend le premier avion à destination de la France. Arrivée à Nice, elle se précipite vers la galerie du Pont-Neuf en compagnie de son frère Cédric, 21 ans. Complètement bouleversée, les enfants demandent à leur belle-mère « Comment papa est-il mort ?»« On l'a trouvé sur son lit dans sa chambre du labo ce matin. Apparemment, il s'est suicidé en ingérant des médicaments. Mais pourquoi se serait-il donné la mort ?» demande Cédric. Vous savez qu'on lui a diagnostiqué tardivement un trouble bipolaire associé à d'autres pathologies psychiatriques. Il alternait des phases d'euphorie avec des périodes dépressives. Cela fait un moment qu'il est sous traitement, mais son état ne s'améliorait pas, malheureusement. Il avait des idées suicidaires et voyait tout en noir ces derniers temps. Je suis désolé, les enfants. Cela devait arriver tôt ou tard. Est-ce qu'il a au moins laissé une lettre ou un courrier pour s'expliquer ? Non, rien. Il a été trouvé tel quel sans avoir laissé aucun mot d'adieu. En plus, on n'a trouvé aucune boîte de médicaments. Le docteur Cosme, qui prend part à la conversation, leur lance froidement « Votre père est mort, mais pour la succession, je vous le dis tout de suite, il n'y a que des dettes qui se sont accumulées à cause des grandes dépenses qu'il se permettait somptueusement. Je suis navré de vous le déclarer ainsi, mais vous n'avez rien à récupérer. » La dépouille est inhumée et délivrée à la famille du défunt avant l'arrivée des résultats des tests sanguins. Le samedi 2 mars 1996, 3 jours après le décès, les funérailles de Pascal Vito s'organisent. Les obsèques sont célébrées à la cathédrale Sainte-Réparate, dans le Vieux-Nice. L'église est pleine à craquer. Nombreuses sont les personnes qui ont répondu présentes pour faire leurs adieux au regretté businessman et prier pour lui, notamment ses enfants, sa famille, beaucoup d'amis et son ex-femme Evelyne. Tout le personnel du laboratoire est aussi venu participer à la cérémonie pour lui rendre un dernier hommage. Après l'enterrement, Quelques amis se réunissent dans un café non loin de la cathédrale pour boire un verre en évoquant le souvenir du défunt. En pleine discussion, le biologiste raconte.
Moi, j'ai vu Pascal quelques heures avant sa mort. Le pauvre, il était tellement déprimé qu'il est entré dans une crise d'angoisse aiguë. Je ne pouvais pas le laisser dans cet état, alors j'ai dû lui donner un calmant pour le soulager. Rapidement, je lui ai injecté de l'écanil par voie intraveineuse et ça l'a apaisé sur le champ.
Intrigués, les collègues s'échangent des regards suspicieux. De l'écanil en intraveineuse. Il leur semble que, de souvenir de faculté, cette injection se fait par voie intramusculaire. Le soir même, les enfants Vito et quelques amis se trouvent chez Evelyne Yaramante, autour d'un dîner, et cette piqûre est au cœur de la conversation. Entre-temps, les médecins présents lorsque Dominique a fait cette déclaration se sont renseignés et se sont assurés que cette substance ne s'administre que dans les muscles, non pas dans le sang. C'est très dangereux. Comment un biologiste de grande envergure comme le docteur Cosme peut-il commettre une erreur pareille? D'ailleurs, c'est écrit en gras sur l'ampoule. Il est impossible qu'il soit passé à côté. Le doute s'installe dans l'entourage de l'homme d'affaires, et 4 jours après les funérailles, les soupçons se renforcent avec l'arrivée du rapport de l'expert. Le toxicologue, qui n'a pas connaissance de la piqûre d'écanil que Pascal Vito a reçue le jour du drame, n'a pas recherché ce produit dans le sang, mais il a retrouvé des quantités très importantes d'un médicament couramment utilisé dans les suicides, le benzodiazépine. Par exemple, le valium appartient à la famille de cette matière chimique. Néanmoins, il n'a détecté aucune trace ni de théralène ni de barbiturique. Par ailleurs, dans son compte-rendu, le docteur Jacomet certifie qu'aucune matière identifiée dans le sang ne peut conduire à la mort. L'hypothèse d'un cocktail du suicide dont l'homme d'affaires aurait laissé la recette derrière lui tombe donc à l'eau. Alexa et Cédric n'en reviennent pas. L'homme de confiance que leur père a choisi comme partenaire d'affaires l'a amené à la mort. Tout s'explique maintenant. Ils comprennent enfin pourquoi il les a accueillis si froidement au centre médical et pourquoi il est resté si distant. Il n'a pas cherché à les réconforter dans de telles circonstances, bien qu'il prétende être un proche de la famille. En outre, depuis le décès de leur père, le médecin biologiste, qui était jusqu'alors un simple exécutant, fait subitement peau neuve et fait savoir à qui veut l'entendre qu'il reprend la tête du laboratoire. Par conséquent, les enfants déposent plainte contre le docteur Cosme avec constitution de partie civile. Ainsi, une information judiciaire est ouverte, mais aucune démarche n'est entamée en vue de procéder aux investigations nécessaires. L'enquête piétine et le dossier traîne en longueur au tribunal de Nice. Ce n'est qu'en février 1997 que le juge demande au docteur Jacomet de réanalyser le sang stocké dans ses frigos depuis un an. Dans ce nouvel ordre de mission, il est question de tester la présence du méprobamate, le principe actif de l'écanil. À sa grande surprise, le toxicologue en trouve une dose extrêmement élevée, à savoir 109,38 mg par litre de sang. Et encore, cette quantité est sous-estimée, étant donné que les propriétés du sang d'un décédé sont différentes de celles d'un vivant. Il refait les dosages plusieurs fois, mais à chaque reprise, les résultats sont les mêmes. Le sang de Pascal contenait au moins 140 mg de méprobamate au moment de sa mort. D'une part, la concentration d'écanil injecté est incroyablement toxique, car au-delà de 100 mg par litre de plasma, elle provoque un coma profond et le risque d'un arrêt cardiaque. D'autre part, l'administration de cette substance par voie intraveineuse est une faute médicale grave qu'un biologiste ne peut se permettre. Les conclusions du docteur Jacomet accablent le docteur Cosme et renforcent les soupçons des enfants du défunt. À présent, le médecin biologiste, mis en examen pour homicide involontaire, doit s'expliquer sur l'heure et le mode d'administration suspect de cette piqûre fatale. Ainsi, le 27 mai 1997, Cosme répond à une convocation de la juge d'instruction Anne Vella et se rend au palais de justice. De nature renfermée, il se montre détaché, voire désinvolte, et affiche une sérénité déconcertante. Interrogé sur la journée du 27 février 1996, il affirme « Je travaillais au laboratoire quand Pascal est venu me voir. »« Quelle heure était-il ?» demande la juge. Il devait être midi, midi et demi. Et vous étiez où exactement quand il vous a rejoint? J'étais en bactériologie, je finissais de rentrer un résultat. Continuez.
Il m'a salué et il m'a demandé si j'avais fini. Je lui ai répondu que j'y étais presque. Dès que j'ai terminé, il m'a dit de prendre ma mallette de prélèvement à domicile et de le suivre. On s'est rendu à l'autre bout du couloir, pas dans l'appartement de Pascal, mais juste à côté, dans ma chambre de garde. Puis il m'a répété « Je souffre, je souffre, je souffre ». Et il m'a fait un signe avec sa main qui veut dire « Au secours ». Quel signe ? Il a passé ses griffes sur son torse. C'est un code que partagent les francs-maçons. On appartient à la même loge. Alors, quand Pascal a sorti une ampoule des canils de sa poche et m'a demandé à moi, son frère maçon, de la lui injecter, je n'ai pas pu refuser. Vous dites que c'est lui qui vous a fourni l'ampoule des canils. Oui, tout à fait. Moi, je n'avais que ma mallette qui ne contient que du matériel de prélèvement. Je ne prends ni substance tranquillisante, ni aiguille, ni seringue pour de l'intramusculaire. C'est pour cette raison que vous lui avez administré les canils par voie intraveineuse. En effet, j'ai bricolé un dispositif pour intraveineuse. J'ai pris une seringue sur laquelle j'ai monté une aiguille à papillon. J'ai posé un garrot, j'ai choisi une veine et j'ai piqué sur le dessus de la main gauche. On a fait ça doucement et ça a marché. Mais vous êtes médecin de laboratoire, monsieur Cosme. Vous devez savoir que les canils dans le sang est mortel. Il faut admettre que vous avez commis une grave erreur. Je n'ai pas commis d'erreur. Lors de mes études à l'hôpital Cochin à Paris, j'ai vu pratiquer des intraveineuses à faible dose. En l'occurrence, j'ai pompé environ une cuillère à café de liquide, ce qui équivaut à un cinquième d'ampoule. C'est plus de la placebo-thérapie que de la thérapeutique. À la suite de cette audition, la juge Vella adresse une liste d'interrogations au docteur Jacomet afin de vérifier les dires du docteur Cosme. Deux mois plus tard, l'expert remet son rapport où il exprime son étonnement au sujet des déclarations du suspect. Jacomet y explique que la quantité de méprobamate retrouvée dans le sang de Vito n'a rien d'une placebo-thérapie. D'ailleurs, elle ne correspond aucunement à un cinquième du liquide. Il s'agit d'une ampoule entière des canils. Il dément également les allégations du biologiste quant au moment de la piqûre qui, soi-disant, a été faite à midi. Le laps de temps entre l'injection et la mort a dû être court. Le légiste fixe l'heure du décès aux alentours de 23 heures, alors que Cosme indique la lui avoir administrée en début de soirée. Les nombreuses incohérences dans les propos du médecin l'accablent encore plus et font peser de lourds soupçons sur lui. Le 7 octobre 1997, la juge d'instruction convoque les deux associés pour les entendre l'un après l'autre. Auditionnée, Evelyne Yaramante revient sur la soirée du 27 février 1996 et affirme « Je travaillais au laboratoire ce jour-là. À la fermeture, j'ai voulu passer voir Pascal pour lui dire au revoir. Il était dans son appartement de fonction en compagnie de Dominique. « Il était quelle heure ?» demande Vella. « Environ 19h30. Combien de temps êtes-vous resté ?»« Jusqu'à 21h à peu près. Ensuite, j'ai quitté le centre médical pour aller dîner avec un ami dans un restaurant du port de Nice. » Quand vous les avez quittés, le docteur Cosme était toujours présent. Oui. Dans quel état était Pascal Vito ? Est-ce qu'il allait bien ? Il allait mal. Il était si épuisé qu'il avait du mal à articuler. J'étais d'ailleurs très inquiète pour lui, à tel point qu'après mon dîner, à 23h, j'ai téléphoné à Dominique pour qu'il aille voir s'il se sentait mieux. À la fin de son audition, Evelyne sort de la salle. C'est au tour du biologiste de donner sa version. Confronté aux assertions de sa collègue, il affirme. En effet, ce soir-là, à 18h, j'ai retrouvé Pascal dans son appartement. On a bu un whisky ensemble. Plus tard, Evelyne est venue nous rejoindre. Quand je suis parti vers 20h, je les ai laissés tous les deux. Je suis allé livrer des prélèvements de sang à la gare. Comment se sentait-il lors de cette visite dans la soirée ? Il allait bien mieux qu'à midi. Mais Evelyne vous a appelé à 23h pour prendre de ses nouvelles. Pourquoi s'inquiéterait-elle s'il allait bien, comme vous dites ? Je ne sais pas. Les deux associés ne sont pas d'accord sur leur emploi du temps. Au moins l'un des deux cache la vérité. Tant de mystères et de doutes enveloppent cette affaire. Des investigations poussées pourraient résoudre l'énigme, mais un coup de théâtre improbable survient, sans prévenir. La juge d'instruction Vella refuse de poursuivre l'enquête. Pour elle, l'affaire est close, sans équivoque. Pascal Vito s'est suicidé. En apprenant la nouvelle, les enfants du défunt sont scandalisés. Cédric et Alexa ne comprennent pas ce refus de poursuivre l'enquête
ni d'être plus amplement informé de la part de la chambre d'instruction, étant donné que le procureur de la République lui-même et l'avocat général considèrent que le dossier est criminel et qu'il faudrait continuer les recherches. Par le biais de leur avocat, maître Frédéric de Betz, ils engagent une procédure de contestation auprès de la cour d'appel. Ce n'est qu'en début 1998 qu'une nouvelle enquête pour homicide involontaire redémarre. Une commission rogatoire est émise par le juge Jean-Paul Renard, qui l'expédie à la police judiciaire de Nice. Au service d'investigation et de recherche, c'est le capitaine Jean-Louis Bellion qui se charge de l'affaire. Sa tâche n'est pas facile, il doit reprendre le dossier 2 ans après les faits. Les mémoires se sont effacées, les souvenirs se sont estompés, et les preuves ont eu le temps de disparaître. Le capitaine sait parfaitement qu'il manque de moyens face à un dossier si incomplet, une affaire de meurtre dans laquelle on a omis d'effectuer ne serait-ce qu'une autopsie. Néanmoins, il s'efforce de rechercher de nouveaux éléments et d'explorer toutes les pistes probables. De prime abord, il doit déterminer le mobile du crime. Dans ce sens, sa première mission consiste à déceler les secrets du montage financier du laboratoire d'analyse médicale de la galerie du Pont-Neuf. Un conflit d'intérêts entre les associés pourrait être une raison suffisante incitant au crime. Très vite, le policier découvre que, pendant 8 ans, Vito était le patron attitré du laboratoire de la galerie du Pont-Neuf. Depuis la création de leur entreprise, Dominique Cosme, l'associé majoritaire, vit par procuration de son associé fantôme. Peu avant son décès, ce dernier s'apprêtait à vendre le laboratoire et se lancer dans une nouvelle affaire. Si cette liquidation avait eu lieu, Cosme et Yaramante auraient eu beaucoup à perdre, notamment leur travail, leurs revenus confortables, leur voiture de service et autres avantages. En pleine investigation, un témoin fait son apparition. C'est une femme du nom de Christine. Elle a longtemps travaillé au labo et elle est la dernière compagne de Pascal Vito. Le 7 mai 1998, elle se rend au commissariat de police pour faire sa déposition. Entendue par Bellion, elle se confie au sujet du biologiste. « J'ai toujours eu une bonne relation avec lui, mais depuis la mort de Pascal, son comportement a radicalement changé. Dans ma tête, j'ai pensé qu'il y avait quelque chose de pas net, j'ai donc décidé de l'enregistrer à son insu. Je l'ai fait en 2 temps. À la mi-mars 1996, je l'ai enregistré pendant 3 quarts d'heure et au début d'avril de la même année aussi. C'était au Pont-Neuf, les 2 fois ? Non, je l'ai invité à prendre un café chez moi. Cela faisait 2 semaines seulement que Pascal était décédé. Pour l'occasion, j'avais acheté un magnétophone que j'ai caché sous des documents dans le salon. Voici la cassette. » Le capitaine prend la mini-cassette et la fait marcher. La conversation s'engage entre Christine et Dominique. On entend ce dernier dire « Pour un week-end, 180 000 francs. Et c'est pathologique. S'il avait continué 2 ou 3 mois comme ça, il aurait coulé la société. Il n'y a aucun doute. » Le médecin biologiste, limité à son travail, collé à son labo, qui prétendait être désintéressé de toute finance et profit, se montre tout à coup très concerné par les dépenses que faisait son patron. Lors de cette discussion enregistrée sans qu'il le sache, il ne parle que d'argent. Il s'exprime ouvertement sur ce que lui coûtait Pascal, ses enfants, son ex-femme, ses extravagances et ses conquêtes. Saisi, le policier écoute attentivement sans omettre de détails et la bande sonore lui réserve une autre surprise. Dominique Cosme revient sur la fameuse injection qu'il a faite à Pascal Vito. Il lâche. Et il devait être 18h, vers 18h30 je pense. On était dans ma chambre de garde. Et puis moi, j'ai pris un whisky et je lui ai fait un écanil. Chez la juge d'instruction, Cosme a affirmé l'avoir donné vers midi. Pourquoi a-t-il menti s'il n'a rien à se reprocher ? De plus, il n'y a pas que le docteur Cosme qui intrigue Bellion. L'ex-épouse attise également ses soupçons. Il est précisé dans le rapport d'intervention que le corps a été retrouvé par Yaramante aux alentours de 10h du matin, alors que les autorités ne sont arrivées sur les lieux qu'à 12h45. Ce décalage entre la découverte de la dépouille et l'intervention de la police est suspect. D'après les témoignages de certains amis du défunt qui se sont rendus sur place entre-temps, Evelyne Yaramante a pris le soin de ramener ses proches et ils ont fouillé le bureau à la recherche de documents. L'enquête dure 1 an avant que le capitaine Bellion remette ses conclusions au parquet de Nice. 37 témoins ont été entendus et divers éléments ont été réévalués. En définitive, Le policier note que bon nombre de points soulevés l'ont amené à douter de la neutralité de Dominique Cosme. De son point de vue, il y a de fortes chances que le geste du docteur soit un acte voulu et prémédité, mais il ne s'agit aucunement d'un suicide. Ses déductions sont claires et concises, susceptibles de conduire le biologiste aux assises. Or, curieusement, le juge d'instruction Jean-Paul Renard renvoie le médecin devant le tribunal correctionnel. Selon lui, l'injection en question relève d'une simple erreur médicale. Le procès s'ouvre en décembre 2002. Au fil des auditions, les magistrats se rendent à l'évidence. Les faits sont de nature criminelle et n'ont rien à voir avec une faute professionnelle. Alors, le tribunal correctionnel se déclare incompétent et clôture le dossier. 6 ans après la mort de leur père, les enfants Vito retournent à la case départ avec une lourde déception. Les deux parquets se renvoient la balle et l'affaire traîne. Ce règlement de compte entre juges est donc tranché par la chambre criminelle de la Cour de cassation qui donne très vite son verdict. Celle-ci approuve le rejet du tribunal correctionnel et renvoie l'affaire au tribunal de grande instance pour un autre jugement. En mai 2003, un nouveau juge est désigné. Une nouvelle procédure est lancée et cette fois, l'enquête est confiée à la gendarmerie nationale. À l'antenne de la brigade de recherche de Nice, deux agents, le major Philippe Domblide et le lieutenant Christian Serre, se mettent à la besogne. Depuis le début, leur mission s'avère dure et compliquée car Dominique Cosme est devenu intouchable. Étant donné qu'il a été mis en examen à 2 reprises, ils n'ont le droit ni de l'intercepter, ni de le convoquer, ni même de l'interroger. Que faire alors? Les deux gendarmes se penchent alors sur une autre piste. Il faut qu'ils mettent la main sur la reconnaissance de dette que Pascal Vito avait fait signer au médecin pour garantir ses parts dans le laboratoire. Ce document a été évoqué dans les dépositions de nombreux témoins, mais personne ne l'a jamais vu de ses propres yeux. L'ex-petit ami de Vito a déclaré que le businessman niçois avait l'intention de changer quelques termes du contrat. Par ailleurs, certaines personnes, présentes le matin où le défunt a été retrouvé mort, attestent que c'est Yeramante qui l'a pris. Entendu, l'un d'eux a déclaré. Evelyne savait que Pascal planquait ses papiers les plus importants dans son faux plafond. Elle aurait très bien pu récupérer cette reconnaissance de dette le jour de son décès, quand elle a fouillé le bureau. Ainsi, on met l'ex-femme et le biologiste sur écoute téléphonique, les deux acteurs principaux de cette intrigue mystérieuse. Ensuite, les gendarmes s'activent pour faire bouger les choses. On fait alors savoir aux deux protagonistes qu'on a repris les investigations, et on espère qu'ils en parlent entre eux. Le 23 juin 2004, lors d'une visite au centre médical du Pont-Neuf, le major et le lieutenant croisent l'ex-épouse. Elle n'a pas l'air surprise de les voir débarquer. Elle propose de les accompagner dans leur tournée. Aussitôt arrivés sur les lieux, ils prennent des photos de la chambre de garde du docteur Cosme et de l'ancien appartement que Pascal occupait. Ils saisissent l'occasion pour vérifier l'existence de faux plafonds dans les locaux, dans le but de faire comprendre à Yeramante qu'ils sont sur la piste du fameux document. L'astuce marche et Evelyne meurt très vite à l'hameçon. Quelques heures plus tard, les gendarmes interceptent une conversation téléphonique entre elle et son ancien amant, un certain Jean-Yves Garnier. Celui-ci lui demande.
Dis, Marraine, tu as fait le nécessaire vis-à-vis du document ?
Oui, je l'ai déplacé, ne t'en fais pas. Il est en lieu sûr.
Où ça ?
À Ber-les-Alpes. Ber-les-Alpes. Un petit village des Alpes-Maritimes, à 22 km de Nice, niché au cœur des paysages privilégiés du Sud, où réside la sœur d'Evelyne Yeramante. Voilà une vraie avancée. L'intervention est programmée dans l'immédiat. Une 100aine d'agents policiers se mobilisent pour intercepter 17 personnes simultanément. En plus de l'ex-épouse de Vito, tout son entourage est interpellé. Lors de l'opération, on procède à une fouille générale afin de rassembler le maximum d'éléments possibles, notamment des sessions de part, des actes ou autres, tout ce qui peut être utile à l'enquête ou constituer un mobile du crime. Il est 6h du matin. On frappe à la porte de la sœur. Les hommes se présentent et sont très bien accueillis. L'officier de police judiciaire lui demande sur le champ. « Madame Yeramante, je vais aller droit au but. Où sont les documents que votre sœur vous a donnés pour que vous les cachiez ?» Vous savez, quand elle m'a remis ses papiers, je n'ai pas voulu les garder. Je les ai pris, certes, mais j'ai confié le sac de documents à mon gendre, qui l'a apporté à son grand-père. Sur place, les agents rebroussent chemin et se dirigent vers le lieu de résidence de ce grand-père. Une fois arrivé chez lui, le vieil homme leur remet spontanément le porte-document. Visiblement, il n'a aucune connaissance de son contenu. Les gendarmes mettent enfin la main sur ce qu'ils cherchaient, la fameuse reconnaissance de dette. Cet acte, déposé et enregistré devant le greffe du tribunal de commerce de Nice, prouve l'existence d'une dette entre le docteur Dominique Cosme et Pascal Vito. Le médecin s'y engage à remettre la somme de 1,2 million de francs à l'homme d'affaires si, un jour, il décide de monnayer ses parts majoritaires du laboratoire et les vendre. Curieusement, le contrat stipule que, le cas échéant, l'argent doit être versé à Evelyne Yeramante, étant donné que c'est elle qui a hypothéqué sa maison pour l'obtention des crédits nécessaires au lancement du projet médical. À 6h20 du matin, Yeramante est interpellé à son domicile, emmené au commissariat et mise en examen. Jusque-là, elle était considérée comme simple témoin. Elle est à présent suspectée d'être complice des agissements du docteur à la seringue. On l'interroge sur le montage financier du laboratoire, sur les bénéfices qu'elle tirait de son travail en qualité de gestionnaire, sur ses rapports avec ses deux associés, sur la nuit et la veille de la mort de Vito. Durant toutes les auditions, la femme ne fléchit pas. On a beau lui mettre la pression, elle ne fait que répéter ce qu'elle a déjà affirmé aux enquêteurs de la police judiciaire et aux juges d'instruction. Or, quand le gendarme lui demande les raisons qui auraient pu pousser Cosme à faire cette injection, elle lui répond. Écoutez, je ne sais pas ce qui s'est vraiment passé, mais si vous voulez savoir ce que j'en pense, je vous dirais que Pascal aurait peut-être supplié Dominique de l'aider à mettre fin à ses jours. Ce dernier a fort probablement fini par céder au chant des sirènes et lui a fait ce qu'il lui a demandé. Je ne dis pas que je suis sûr, mais je suppose que Cosme pourrait être l'auteur de ce suicide. C'est une première. Evelyne n'a jamais mis en cause le médecin. Jusqu'ici, elle ne cessait de crier haut et fort que Vito s'était suicidé en avalant des médicaments. Ce changement de version est assez étrange. Pour mieux comprendre ce revirement, les gendarmes interrogent Jean-Yves Garnier, le confident d'Evelyne, qui certifie « Je vous assure, elle sait très bien ce qui s'est passé ce soir-là. Elle m'a tout raconté. Elle m'a dit qu'il s'agissait d'une dose de cheval. Cosme a d'abord fait prendre à Pascal des médicaments qui l'ont plongé dans un état de demi-conscience. Ensuite, il lui a fait l'injection. » Donc, vous soutenez que le docteur Cosme avait l'intention de tuer son patron. Il n'y a pas l'ombre d'un doute que Dominique l'ait tué délibérément. Et non qu'il ait voulu le soulager comme il le prétend. Le major et le lieutenant sont satisfaits de l'aboutissement de l'opération. Ils estiment qu'ils ont rassemblé suffisamment d'éléments à charge contre le suspect pour clore leur enquête et remettre le dossier au parquet de Nice. Avec ces nouvelles avancées, ils ont la conviction que la thèse d'homicide volontaire peut être retenue. Néanmoins, pour conforter leur théorie, de nouveaux prélèvements doivent être effectués. L'affaire repose sur le dosage des canines injectées. Ainsi, les gendarmes font une demande d'exhumation du corps. La requête est acceptée et un nouvel expert est nommé. Le lundi 6 juin 2005, à 6h du matin, une équipe de gendarmes débarque au cimetière de Caucade, à Nice, pour superviser l'ouverture du caveau. Sous demande du juge d'instruction, Cédric et Alexa Vito, accompagnés de leur avocat, maître Frédéric de Betz, sont également présents pour le déterrement de leur père. Le cercueil est ressorti. C'est un moment de recueillement pour les enfants bouleversés. Alexa a les larmes aux yeux et, en voyant la dépouille de son père sortir de sa tombe, elle ne peut plus se retenir. Même après tant d'années, elle n'a pas encore fait son deuil. Son âme torturée n'accepte pas cette fatalité et, dans son esprit, mille et une questions la taraudent. Certes, il est difficile de retirer des indices d'un corps enseveli durant plus de 9 ans, mais le légiste travaille méticuleusement et relève quelques grammes de cellules et de tissus sur différentes zones du défunt. Il réunit l'ensemble des prises et les expédie au laboratoire de toxicologie de la préfecture de police de Paris, où officie le professeur Yvan Ricordel, le seul toxicologue capable de réussir cette mission délicate. La tâche est d'autant plus rude que le corps de Pascal Vito a reçu des soins de conservation après sa mort et son sang a été remplacé par du formol, ce qui rend les tests encore plus compliqués. Le professeur Ricordel arrive toutefois à extraire de chaque prélèvement une quantité importante du méprobamate. Ainsi, il certifie qu'une ampoule d'écanil a été administrée après 18h30. Celle-ci a pu conduire au décès de la victime, moins de 3 heures plus tard. C'est justement l'heure que Dominique Cosme a indiquée dans la cassette enregistrée à son insu. Pour définir l'heure de la mort, le toxicologue se penche sur le bulbe des cheveux où se conserve la trace des dernières heures de vie. Entre autres, les cheveux gardent également les traces des médicaments consommés. Ainsi, l'expert a pu mesurer un taux élevé d'intoxication médicamenteuse et a conclu un début d'une intoxication mortelle. Le dossier d'instruction est alors bouclé. Vu la complexité de l'affaire, le procureur de la République Éric de Montgolfier décide de se charger en personne de ce dossier. Ce magistrat a été nommé à Nice spécialement pour lutter contre l'influence de la franc-maçonnerie dans les décisions judiciaires. En effet, l'avocat de la partie civile a déclaré « Le dossier a subi le traitement maçonnique, le serment d'un frère justifiait l'absence d'investigation. » Il ne faut pas oublier que la victime et l'accusé étaient francs-maçons, ainsi que deux juges de l'affaire. Le doute de la neutralité dans cette affaire est permis. De ce fait, il ne délègue à aucun substitut et choisit de soutenir lui-même l'accusation. Un procès pour assassinat s'ouvre le 29 juin 2009 devant la cour d'assises des Alpes-Maritimes avec un seul accusé, le docteur Cosme, qui comparaît libre. Le biologiste encourt 25 ans de prison pour le meurtre prémédité de son associé, mais celui-ci se déclare innocent et il le clame haut et fort. Néanmoins, son apparence et son comportement transpirent la culpabilité. Il est fuyant, il répond à moitié aux questions et il a du mal à convaincre. Face à ses incohérences, il bredouille et se perd dans ses explications. À qui profite la mort de son associé, si ce n'est pas à lui? Le mobile est l'intérêt financier, il n'y a aucun doute pour les parties civiles. Les deux experts se présentent à la barre et consolident les conclusions livrées dans leurs rapports respectifs. Toutefois, dans leurs interventions, les deux toxicologues laissent planer le doute. Ensuite, la cour demande l'intervention d'un témoin capital, Jean-Yves Garnier, l'ex-amant d'Evelyne Yaramante. À cause de sa maladie, il est entendu en visioconférence. L'homme confirme ses déclarations lors de sa garde à vue et atteste que son ex-petite amie lui a confié que Pascal a reçu l'injection alors qu'il était assommé par des médicaments. Le 4 juillet 2009, c'est le dernier jour d'audience. L'avenir du médecin se joue maintenant. S'il est reconnu coupable, une longue peine d'emprisonnement l'attend. Et s'il est déclaré innocent, il sera définitivement acquitté. La cour a entendu plus de 20 témoins et 5 experts. Il ne reste plus que les plaidoiries et le réquisitoire de l'avocat général, attendu de tous les protagonistes. Et là, coup de théâtre. Un revirement de situation inattendu se produit et fait basculer tout le procès. Le procureur de Montgolfier intervient et ses paroles sidèrent tout l'auditoire. Cet homme, qui a conduit Dominique Cosme aux assises, exprime son doute. De son point de vue, nul ne peut certifier que le méprobamate présent dans le corps du défunt a conduit à sa mort. Il se peut qu'une prise de quantité massive de comprimés par le regretté, lui-même, a causé son décès. De ce fait, il affirme que les éléments à disposition ne sont pas suffisants pour envoyer l'accusé en prison, sous la responsabilité d'un assassinat, et s'abstient de demander une peine. À la suspension d'audience, au moment où tout le monde commente et discute les propos de l'avocat général, celui-ci se manifeste dans la salle des pas perdus. Cosme saisit l'occasion et va lui serrer la main pour le remercier. C'est une scène inédite en cour d'assises. Le jury s'enferme pour délibérer. L'équivoque est fortement présente. Quelle thèse faut-il retenir? Un acte d'assassinat, un homicide involontaire ou un suicide assisté? Après 3 heures et demie de réflexion, les jurés rendent leur décision. À la grande surprise des parties civiles, Dominique Cosme est déclaré non coupable. Acquitté, il sort du tribunal de grande instance et face aux caméras des journalistes, il dit « Merci aux jurés, qui ont tout compris. » Après 13 ans de procédure, une demi-douzaine d'arrêts et de renvois, cette décision inattendue laisse les enfants du défunt abasourdis. Ils ne peuvent pas prouver l'essentiel à leurs yeux, que leur père ne s'est pas suicidé. Après tout ce chemin, l'ambiguïté n'a pas été levée et le mystère reste entier. Pour leur père, la justice ne peut être établie. La machination judiciaire et l'entre-gens, dans cette affaire, a joué sa carte à fond. Le résultat est tel que 28 ans après la mort de Pascal Vito, la vérité reste à jamais inconnue. Nous sommes à la fin de notre émission du jour. N'hésitez pas à écouter les autres émissions du podcast et à prendre 5 secondes pour nous laisser un 5 étoiles sur Apple Podcast. C'est vraiment très important pour nous. Vous pouvez aussi vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes et nous suivre sur Facebook pour nous en proposer de nouveaux. Merci et à bientôt.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Here's a question for the marketers listening. Want to find that perfect customer beyond the world of scrolling, swiping, and searching? Here's a secret to make sparks fly. Smooth talking with podcast ads. With Acast, you can reach millions of listeners who'll be hanging on your every word. On the train to work, in the gym, or waiting in line for coffee. Start up the conversation with podcast listeners anywhere and everywhere. And they're looking for love. 60% of listeners have a higher trust in brands they've met on podcasts compared to social. Get closer to your audience. Make podcast ads with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.